Jeudi, bon début de week-end. On s'en va rejoindre entre le hockey et la F1, entre le sud des États-Unis et son retour à Montréal, notre ami Pierre Houde. Salut Pierre!
Salut Denis, bonjour à Véro et à Audrey aussi.
Bonjour!
C'est ma chronique aéroport. Tu sais, je t'en fais une de temps en temps.
J'adore ces chroniques-là.
Et là, tu vas entendre la mairesse, je ne sais pas si c'est la mairesse ou la préfète du comté de Broward, parce que c'est un message qui part aux 20 minutes.
OK.
Alors, madame la mairesse, elle salue tout le monde, elle souhaite la bienvenue à tout le monde. Elle te donne toute une liste de choses que tu peux faire dans la région de Fort Lauderdale. Alors, ça se peut que tu entendes ça derrière moi. Ça se peut que tu entendes aussi les espèces de messages de sécurité. Mais là, je suis installé en deux barrières où il ne semble pas avoir de départ imminent.
Alors, ils t'ont pas vu encore, c'est pour ça.
Non, mais c'est parce que je suis du côté. Je me suis éloigné un peu de la porte principale pour pouvoir être en toute quiétude pour vous parler.
Si tu pour nous parler, c'est que t'es un vol de snowbird puis tu voulais t'en aller un petit peu plus en retrait, mettons. Là.
Denis, voyons, qu'est-ce que c'est que tu me prêtes des intentions? Je suis toujours très disponible pour les amateurs de hockey, pour les gens du Québec. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, je travaille avec vous, ça prend un minimum de quiétude.
Hey, commençons donc par le hockey, Pierre. Ça a été un bon spectacle en Floride hier, on va se le dire.
Écoute, ça a été un spectacle extraordinaire, bien au-delà des attentes. Oui. Et ça va de pair avec cette équipe qui parfois nous plonge, je le dis entre guillemets, là, nous plonge dans le désespoir et qui, à un moment donné, réussit à trouver de l'énergie, à trouver de la cohésion, je dirais peut-être aussi une certaine modestie par rapport à un adversaire qui est plus fort. Puis ça, ça t'amène parfois à mieux te concentrer, à courir moins de risques, à être un peu plus, présent mentalement sur la patinoire. Et c'est drôle, le hockey, hein, Denis, parce que Martin Saint-Louis disait, après le match contre Arizona, on a gagné, mais on ne le méritait pas.
Oui, il a dit, on a joué un mauvais match.
Et hier soir, le Canadien a joué un très bon match et aurait mérité, dans le fond, la victoire. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre hier, on s'entend.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que le Canadien s'en serait tiré avec une victoire en tir de barrage ou en prolongation. On aurait fait « Ouais, c'est pas volé, c'est mérité. »
Bien, tu vas dire que je suis rancunier puis que j'ai la mémoire longue, mais je regardais le match hier puis je me disais « Tabarnouche, si on avait joué comme le Canadien, on se serait rendu en finale de la Coupe Stanley, les Bruins, l'année passée. »
écoute, disons, ça n'a pas été parfait comme match hier, là, on s'entend.
Ben non.
Tu sais, j'ai beaucoup aimé comment Marc a analysé, par exemple, le but de Sam Reinhart quand il a analysé que, selon lui, Samuel Montembeau est allé beaucoup trop rapidement sur les genoux. Il a ouvert le coin supérieur du filet. Tu as vu le revirement de Slavkovski qui a justement ouvert la porte à ce but-là. Donc, ça n'a pas été vraiment parfait. Mais les Panthers n'ont pas été parfaits non plus. Les deux équipes ont joué avec beaucoup d'intensité. Je peux dire une chose. Ça paraît que les séries approchent parce que on pouvait sentir beaucoup d'animosité aussi sur la patinoire. Là. Je pense que les équipes qui sont déjà assurées d'aller en série, Denis, ça inclut les Bruins, les entraîneurs commencent à les préparer là,
oh oui.
À la hargne, commencent à les préparer à la hargne, commencent à les préparer à un petit peu être frondeurs contre l'adversaire. Et ça paraissait hier, mais le Canadien a bien répliqué aussi à tout ça.
À la fin de la semaine, tout le monde, en fait, tous les amateurs de hockey, quand ils vont regarder les jeux de la semaine, vont voir le but de Suzuki, une échappée avec un lancer extraordinaire. Fait du bien, une fois de temps en temps, de nous rappeler qu'il y a des choses qui fonctionnent, même qui fonctionnent très bien. Puis je veux t'amener sur la double présence cette semaine de Samuel Montembeau. J'ai comme deux théories à deux scènes. Tu me diras celle qui a le plus de valeur. Est-ce qu'on a choisi notre gardien numéro un chez le Canadien ou est-ce qu'on le montre parce que sa valeur est en hausse sur le marché des échanges et on a peut-être une opportunité de faire un coup intéressant? Qu'est-ce que tu vois, toi, dans la décision de le faire gauler deux fois cette semaine?
J'en ai parlé avec Marc hier, puis même Marc et moi, on se perd un peu en conjecture là-dessus. Écoute, je ne crois pas sincèrement. Et dans le fond, avec une équipe comme le Canadien qui est rebâtie encore et toujours, tout est possible, hein, Denis? C'est une business, le hockey, maintenant. Les directeurs généraux, les joueurs eux-mêmes, cessent pas de le dire qu'il faut accepter ça maintenant. Mais je douterais vraiment très fort que... Tiens, Mme la mairesse qui
est... Ah, c'est elle!
Salut.
Oui,
voilà, Mme la mairesse. Écoute, elle est comme le geyser, exactement à un moment fixe, ça part.
Là, c'est-tu les avertissements parce qu'il y a des dindes noires en Floride aussi, non. Puis elle appelle aux armes ou non, c'est pas ça?
Non, elle souhaite la bienvenue à tout le monde.
Ah bon,
elle
d'accord.
Elle suggère des trucs qu'elle fait. Elle suggère même d'aller voir les Panthers à leur aréna dans son message.
C'est
alors
bon.
Tu vois, elle est polyvalente. Non, mais ta question est légitime. Je crois pas sincèrement qu'après avoir désigné Samuel Montembeau comme membre du Canadien pour quelques années encore, avec sa prolongation de contrat, je serais bien étonné qu'on soit sérieusement à l'écoute d'offres pour lui. Moi, personnellement, ma question à Marc hier, c'était est-ce qu'on veut ne pas faire jouer Jake Allen parce qu'on veut être sûr qu'il ne se blesse pas et qu'il soit parfaitement en santé et disponible pour une transaction partir de maintenant
et jusqu'à
14h55. Le 8 mars. Marc lui disait ben, peut-être aussi qu'on commence à réaliser que si on veut agir avec mérite, si on veut agir aussi avec un vrai étiquette de gardien numéro un à qui on veut donner une cinquantaine de départs, puis on n'arrivera pas là, Marc lui voyait ça peut-être plutôt comme bon, ben, à partir de maintenant, on oublie le mariage à trois, on va essayer de gérer notre avenir. Mm-hmm. Maintenant, c'est quoi l'avenir? Est-ce que c'est Caden Primo? Est-ce que c'est Jake Allen? Ça aussi, on a eu cette discussion-là autour d'un verre de vin au souper avant-hier. Tu irais dans quelle direction? C'est sûr que tu peux toujours te dire que Caden Primo est jeune, il va encore se développer, et puis qu'il y a eu quelques bons flashs cette année. Mais est-ce qu'il est convaincant pour être... Est-ce que tu es convaincu d'un duo Montembeau-Primo dès la saison prochaine? Est-ce que tu serais plus rassuré avec un duo Montembeau-Allen? Mm. Tu sais, c'est pas évident, là. Alors, on est au cœur de tout ça, Denis.
La prochaine semaine, tu la vois comment, étant donné que vendredi prochain, vous allez commencer, je pense, vers 2h du matin, là, ces fameuses émissions spéciales sur la journée des échanges.
Non. Marquez-moi, c'est 11h.
OK, c'est raisonnable. Mais tu le sais, hein, y a des années où ça n'arrête pas de bouger, puis c'est excitant. Quoique, on dirait qu'il y en a de moins en moins parce que souvent, tous les gros mouvements sont faits. Est-ce que tu penses que ça va être une année où ça va bouger beaucoup, Pierre? Est-ce que vous allez avoir un gros vendredi? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait des choses qui se déplacent d'ici là ou ça va être une année somme toute tranquille?
Non, je pense qu'il va y avoir encore pas mal de mouvements. Tu regardes les équipes qui sont éliminées, tu regardes les joueurs autonomes qui font partie de ces équipes éliminées, qui vont certainement être convoités. Il y en a pas mal, mais je pense pas que... Et ça, c'est la tendance depuis les dernières années. Le jour même limite des transactions, jusqu'à 15 heures ou un petit peu passé 15 heures, on n'a pas les grandes transactions. Les grandes transactions se font d'avance. Tu as vu, Monahan est déjà parti. Il y avait Elias Lindholm avant lui. Là, je m'attends. Tanev est parti. Il était déjà étiqueté comme monnaie d'échange. Il y a Mark Strom, le gardien des Flames. Est-ce qu'on va s'en départir? Il y a quand même du gros mouvement, je pense, qui est susceptible d'arriver. Du côté du Canadien, écoute, ça va être intéressant parce que c'est bien beau les choix, mais à un certain moment donné, tu dois, si tu en as en grande quantité, tu dois les monnayer, ces choix-là. Mm-hmm. Ça ne te donne rien de tous les garder. Ça va te prendre 20 ans à rebâtir si tu fais juste ça, tu comprends? Alors, est-ce que le Canadien peut concocter une espèce d'ensemble de propriétés, choix, joueurs et ainsi de suite? Tout ça est là, mais c'est très, très difficile d'avoir des antennes très, très précise, Denis, sur ce qui va se passer, autant pour le Canadien que pour les autres.
Ça va être à suivre, évidemment. Moi, j'ai un échange qui s'est confirmé dans les dernières secondes. C'est Pierre Houde qui échange le « et le but » pour le « et on roule » en fin de semaine. Premier Grand Prix de la saison de F1. Il y a eu des qualifs ce matin.
Je pensais que tu allais me parler de Nostradamus.
Oui, j'ai vu ça passer hier sur les réseaux sociaux. De quelle prédiction on parle au juste, là?
Écoute, c'est pas tellement compliqué. On parle du but de Slavkovski.
Oui.
Il reste trois secondes. Mise en jeu en territoire des Panthers. Et ça m'arrive assez régulièrement de rappeler que 3 secondes, c'est bien suffisant pour la mise en jeu. Gagne la mise en jeu, refile la rondelle à ton joueur. Et le joueur qui décoche un tir. Alors, j'explique ça vraiment comme ça. Puis j'ai dit, d'ailleurs, j'attire votre attention, Slavkovski est en retrait de Suzuki. Il a déjà le bâton sur la glace. La mise en jeu gagnée par Suzuki, le tir et le but.
Et voilà!
On sait bien s'arranger, là. OK, c'est comme la lutte.
Oui, mais là, j'éclate de rire parce que je trouve que la situation est parfaitement... elle est incongrue, elle est amusante.
Ben oui.
Et là, Marc spontanément me surnomme Nostradamus. Oh non, alors ça, c'est devenu un peu violent.
C'est drôle que dans 99% des cas, tu fais l'explication, puis dans les trois dernières secondes, la mise en jeu, elle s'en va de l'autre bord, la game finie, puis merci, bonsoir. Puis là, ben, il est arrivé le play-by-play que tu avais callé d'avance.
Mais surtout hier, Denis, parce que les Panthers dominaient à peu près deux tiers, un tiers les mises en jeu à ce moment-là. Alors donc, c'était... Puis Suzuki était pas de son côté fort non plus. Alors, c'était quand même assez inusité. Mm-hmm. Mais tu vois, ça peut arriver. Alors, ça, on l'a vécu hier. Bon, on va parler d'F1, c'est ça
oui,
que tu veux?
Oui, je voulais que tu nous parles peut-être des qualifs de ce matin, puis peut-être spécifier aussi que c'est des Grands Prix du samedi. Là. La routine est un peu chamboulée. Là.
La routine est chamboulée, Denis, parce que la fête religieuse du Ramadan commence dimanche 9-10, d'accord?
Oui.
Et parce que le Grand Prix est en Arabie Saoudite la fin de semaine prochaine, ouais. On a voulu être accommodant pour ceux évidemment qui veulent respecter cette fête religieuse. Donc, on a devancé le Grand Prix d'Arabie Saoudite à samedi le 9. Mais là, si tu faisais ça, il fallait évidemment que tu devances aussi le Grand Prix de cette fin de semaine-ci pour pouvoir laisser le même temps habituellement que tu laisses aux écuries, enfin, à tout grand cirque là, pour se déplacer. Donc, tu avais la séance de qualification aujourd'hui et tu as le Grand Prix de Bahreïn qui sera présenté demain matin à 10h et non pas dimanche matin comme d'habitude.
Qui peut challenger Red Bull cette année, là?
Ah, si on avait fait cette conversation il y a 24 heures à peine, je t'aurais dit, ça semble intéressant. Il semble y avoir un progrès vraiment remarquable de Ferrari. Gros progrès, gros pas en avant pour Mercedes. Et puis, peut-être qu'on fait un peu de surplace chez Red Bull. Puis, je regarde la structure de la voiture, enfin, l'approche technique qu'on a choisie chez Red Bull. On a choisi, Denis, l'approche qui n'avait pas fonctionné pour Mercedes il y a quelques années. On a choisi d'aller dans cette direction-là. Donc, si on avait eu les indices d'il y a 24 heures, je t'aurais dit c'est prometteur. Sauf que là, la séance de qualification s'est déroulée aujourd'hui. En Q1 puis en Q2, ben, tu dis « Ah, ça peut être assez ouvert, puis Ferrari est dans le coup et tout ça. » Puis tu arrives en Q3, puis bang! Max Verstappen colle plus que 2/10 à ses principaux rivaux. Et obtient la première pole position de la série. Alors, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est un tout petit échantillon, là, Denis. C'est le premier grain de sable de cette saison de 24 Grands Prix. Mais t'es obligé, à la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui, t'es obligé de concéder que on a encore trouvé la bonne recette et que Max Verstappen, comme pilote, parce qu'on l'oublie trop souvent, on parle trop souvent de Red Bull, puis de la voiture, puis d'Adrian Newey, mais je pense que là, la preuve est faite. On est en train de consacrer un grand monument là, dans l'histoire de la F1. Il est encore tout jeune, mais tu vois ce dont il est capable.
Quand un pilote de cette catégorie-là dit en essai que sa monoplace ne lui plaît pas, est-ce qu'il dit la vérité ou c'est un genre de bluff de début de saison? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des difficultés? Bon, à la lumière des résultats des qualifs, la réponse semble être non. Mais moi, je fais ça des fois. Là, avant une émission, je suis bien nerveux. Je me dis, hey, aujourd'hui, ce sera pas bon. Je mets la barre bien basse, puis après ça, bon, on bâtit là-dessus. C'est une drôle de stratégie. Pas sûr que ça fonctionne bien, là, mais dans le monde de la F1, un pilote qui partage cette impression-là, ça veut dire quoi?
Ben oui, le bluff existe. Moi, j'en suis convaincu en F1. Mais maintenant, est-ce que c'est toujours le pilote qui est le porte-parole? Pas nécessairement. Parce que le bluff, ça peut être aussi que tu es en essai hivernal, enfin, les essais d'avant-saison, comme on a vu la semaine passée. Qui fait quoi? Qui roule avec un réservoir vide? Qui choisit, par exemple, de ne pas rouler en gomme tendre qui choisit délibérément de vraiment mettre à l'épreuve une facette de la voiture et que tu sacrifies la performance pure et dure parce que tu penses que la performance pure et dure, elle va être là de toute façon. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Alors oui, tu as peut-être un peu de bluff voulu, ciblé, délibérément adopté pour dérouter l'adversaire, mais je pense que tu as aussi l'espèce de bluff technique ou sportif qui n'en est pas un finalement, qui fait que personne fait vraiment jeu égal dans les séances d'essai. Là où ça compte pour vrai, et je le rappelle tout le temps, à part les courses sprint, là où ça compte pour vrai, c'est quand tu tombes en qualification avant la course et que tu as les trois segments. Puis je vais même aller plus loin. Là où ça compte pour vrai, c'est Q3. Il faut que tu te rendes à Q3. Quand tu es rendu là, c'est là que le vrai portrait tombe.
Okay.
C'est là que tu as une idée de la capacité de domination ou non. Des différents pilotes et des différentes écuries.
On va surveiller ça en fin de semaine, évidemment. Pierre, tu es à quelques minutes d'embarquer dans ton avion. Tu es quel type de passager dans un avion? T'es-tu le gars qui travaille? T'es-tu le gars qui écoute de la musique,
un documentaire?
Ou t'es le gars qui prend un petit verre de vin puis qui s'endort collé sur l'épaule d'un étranger? Oui, c'est ça.
je dors jamais en avion.
Ah ouais?
Jamais?
La dernière fois où j'ai vraiment dormi, c'était Toronto-Rio pour les Jeux olympiques. C'était un vol, c'est parce qu'il n'y avait pas de décalage horaire, ou à peu près pas. Donc, c'était la vraie nuit. Et puis, c'est un vol quand même de près de 12 heures. Donc, j'avais réussi à dormir un peu. Mais je sais pas, c'est peut-être mon instinct de pilote. C'est peut-être ma passion pour l'aviation.
Mm.
Alors, ce que je fais surtout dans les vols du Canadien, je travaille. J'ai toujours mon ordinateur ouvert.
Okay.
Et je prends les devants. Comme là, je vais travailler tantôt parce que j'ai beaucoup de préparation à faire pour le premier Grand Prix demain.
Évidemment.
Mais j'ai aussi le match à Nashville lundi, mm-hmm. parce que lundi soir, j'atterris à Nashville vers 18h.
Oh.
Puis là, t'es bien conscient que je resterai pas assis dans ma chambre d'hôtel à Nashville, même si c'est un lundi soir. Alors,
il va aller traîner sa main.
Yeah.
Écoute, direction Tootsies dès que j'arrive. Là où il y a trois étages et quatre scènes différentes. Et puis, fin de soirée au Bourbon Street, même si mon guitariste préféré à Nashville, Stacy Mitchart, ne joue là que les jeudis, vendredis et samedi.
Bon, mais moi, je surveille toujours ces lendemains-là. Hein. J'écoute toute la programmation de RDS. Je veux voir à quel point tu as les yeux petits la première fois que tu apparais sur nos TV.
Écoute, on se garde toujours une petite gêne la veille d'un match. Mais écoute, on va à Nashville une fois par année. J'ai pas le temps vraiment d'y retourner cette année. Ah. Alors donc, dans l'avion, je travaille. Mais oui, de temps en temps, je vais prendre un petit verre de vin, bien sûr. Et puis, mais en travaillant.
Mais oui.
Et puis, c'est surtout ce que je fais. J'adore aussi, si on a l'Internet ou non, je mets dans le coin de mon écran mon logiciel de suivi de vol. Alors, je sais où est-ce qu'on est rendu. Je sais exactement quel est notre parcours. Je connais les avions qui sont autour. Je sais sur quel jetway on est. Alors, tu vois, je suis et pilote et commentateur sportif en même temps.
Mon Dieu, moi, je vois pas les décollages. Je m'endors avant même le décollage de l'avion.
Ah, moi, je suis trop heureux.
90% du temps.
Trop nerveux.
Heureux, voyons.
Ah non, moi, je suis pas bien dans un avion, moi. C'est drôle, hein?
Mais t'aurais pas été heureux pour le vol où on est venu à Lauderdale il y a 48 heures. Parce que on a volé dans ce système de fou, ce système de météo complètement fou. Et j'ai rarement vu ça. Sur les trois heures, on a été en turbulence, modérée. Modérée, ça, c'est au sens de l'aviation. Mais au sens d'un passager moyen, ça brasse vraiment. Là. Et on est là-dedans deux heures sur trois.
Oh, tu parles de ça, puis c'est un peu heureux qui te pose la question, Pierre. Quand tu as des connaissances sur les techniques d'aviation, quand tu as des connaissances de pilote sur les conditions météo, sur ce que ça demande d'assurer un vol, es-tu plus peureux quand ça brasse ou t'es rassuré d'avoir ces connaissances-là? Moi, j'ai l'impression que plus j'en saurais, plus j'aurais la chienne.
dans le cas des turbulences, je pense pas, Denis, je pense que ça aide d'avoir été pilote soi-même.
Okay.
C'est très rare, même par beau temps au Québec, les fins de semaine, c'est très rare que tu vas faire un vol où il n'y a pas de turbulences. Donc, tu apprends à composer avec ça. Les turbulences, elles peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être aussi bête que des turbulences thermiques. parce que le sol redonne de la chaleur. Mm-hmm. Et cette montée de chaleur crée une instabilité dans l'air, dans le mouvement linéaire de ton vol. Là, dans ce cas-là, c'était vraiment la force du système. Écoute, on était au-delà de 30 000 pieds et ça brassait autant là, à 30 quelques mille pieds. Donc, de connaître les différentes notions, un, tu sais que c'est pas dangereux, mais c'est pas plus agréable parce qu'on est pilote. Là. Comprends-moi bien, là, on n'est pas au-dessus de ça. C'est pas agréable, mais tu raisonnes plus sur ce qui se passe.
Okay.
Tu sais très bien avec la puissance des moteurs que le pilote, parfois, va chercher une meilleure altitude. Alors, il va consulter les organismes de contrôle qui nous suivent. Il va demander s'il peut descendre au niveau de vol 300, par exemple, au lieu de 320. Tu sais que le pilote essaie de chercher, il essaie de faire quelque chose. Parfois, c'est trop violent. Tu vas voir la réduction de la puissance des moteurs parce que ça aide un peu. Mais comme on dit en bon anglais, there's so much you can do. Quand tu es pris dedans, malheureusement, très souvent, tu dois voler là-dedans. Mais en te disant que les avions sont conçus pour tellement plus que ça. Donc, il n'y a pas de danger là, de structure, il n'y a pas de danger de situation de vol. Rarement, tu vas avoir une perte de portance, ça qui dure une seconde ou deux, mais tu es comme dans la navette spatiale, là, les plateaux se retrouvent au plafond, et puis c'est un effet de vide que tu as littéralement. Mais Dieu merci, c'est très, 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 très rare que ça arrive. Ça m'est arrivé deux fois, mais Dieu sait que j'ai volé dans ma vie. Là,
j'allais te souhaiter une bonne fin de semaine, mais techniquement, c'est juste ta semaine de travail qui se poursuit jusqu'à l'infini. Puis c'est un bon rush, là. C'est quasiment des vols aller-retour, un grand prix entre les deux. Est-ce que tu as le même modèle de travail quand tu embarques en mode grand prix qu'en mode hockey? Ça reste la description techniquement, mais j'imagine que quand on passe d'un domaine à l'autre pour la première fois dans l'année, à tout le moins, ça doit être une charge de travail de plus puis de préparation supplémentaire. Aussi,
oui. C'est quelques heures ce soir, quelques heures très tôt demain matin avant d'aller en onde. Parce que là, demain, on fait le tour. D'abord, on fait une émission d'avant-course de 30 minutes supplémentaires. Donc, on fait une heure d'avant-course demain entre 9h et 10h. Et on fait vraiment le tour des 10 écuries. Les nouvelles règles, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même aller explorer de ce côté-là. Les grands changements, évidemment, avec Hamilton qui a déjà annoncé qu'il s'en va chez Ferrari la saison prochaine, avec toutes les rumeurs, tous les potins. Bref, on a beaucoup de matériel à établir. Donc, ça, oui, pour le premier Grand Prix, je te dirais que c'est quand même au moins quelques heures de plus de préparation. Et après ça, ben, t'es plus en mode mise à jour, si tu veux.
Tu iras cracher à Nashville le soir après tout ça, puis essaye d'en profiter pour nous autres, puis de prendre soin de toi un peu, Pierre.
Je vais vous envoyer une petite pièce vidéo à un certain moment.
Oui!
Si je trouve un musicien particulièrement stimulant, je vais le capter en vidéo et je vous envoie ça.
J'ai encore ce fantasme de cette virée à Nashville. Mon premier Nashville, je veux que ce soit avec toi, Pierre.
Écoute, on va s'arranger pour que ce soit ça, mais on ira surtout une fin de semaine. Parce que le lundi soir, je dois avouer que c'est tranquille. Il n'y a rien au Ryman, il n'y a rien au Grand Ole Opry. Comme je te dis, Mitch Hart n'est pas là au Bourbon. Il faut vraiment y aller un jeudi, un vendredi, un samedi.
J'ai une phrase. Je trouve que c'est vendeur. Je pense que les filles vont aimer ça. Leclerc Communication et Boulevard 102.1 présente Nashville dans le retour pour une semaine.
Pas vrai? J'entends
ça. Une semaine? T'es sûr qu'on va pouvoir survivre?
Quand on sort en grand.
Écoute, je suis partant si je peux trouver un petit trou dans mon agenda.
Hey Pierre, prends soin de toi, puis on se joint à toute l'équipe pour demain, dès 9h, du côté de RDS. C'est la saison de Grand Prix qui débute. Puis après ça, ben, c'est la poursuite du hockey. Du côté de la semaine prochaine. Bye Pierre, take care.
Hey, salut, passez un bon week-end. Bye bye.
Bye bye.
Hey, notre ami Pierre Aude, qui littéralement à quelques minutes de prendre l'avion, s'est installé loin des Snowbirds pour prendre le temps de nous jaser un peu à quelques heures du début du premier Grand Prix de la saison, celui de Bahreïn. On s'arrête quelques instants. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est